La revue de presse internationale d'Éric Biegala. Bonjour Éric.
Bonjour Guillaume.
Et on commence par la Birmanie où un général est sorti de sa réserve ce week-end.
Oui, et pas n'importe quel général, nul autre en vérité que Min Aung Hlaing, le tout-puissant patron de l'armée birmane qui s'est fendu hier d'un message sur son compte Facebook dans lequel il explique que l'opération militaire en cours dans l'état Rakhine en Birmanie, opération que les Nations Unies ont caractérisée comme une campagne classique de nettoyage ethnique poussant vers le Bangladesh près de 400 000 Rohingyas, que cette campagne n'était que la réponse aux attaques d'extrémistes bengalis du 25 août. Ils ont demandé à être reconnus en tant que Rohingyas, lesquels n'ont jamais constitué un groupe ethnique en Birmanie, écrit le général Min Aung Hlaing. Les Rohingyas de Birmanie ont en fait été déchus de leur citoyenneté dans les années 80. Dans le Huffington Post, Mark Farmaner, le directeur de l'ONG Burma Campaign UK, relève s'il existe en Birmanie une personne qui peut arrêter cette campagne de nettoyage ethnique, ce n'est pas Aung San Suu Kyi, c'est bien le général Min Aung Hlaing, un général qui, avant même cette dernière offensive, était déjà sous le coup d'une enquête onusienne pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Mais, poursuit Mark Farmaner, cela n'a pas empêché Barack Obama en octobre dernier de lever toutes les sanctions américaines le concernant, tandis qu'en Europe, le gouvernement britannique entraîne son armée et que l'Allemagne ou l'Autriche lui ont récemment déroulé le tapis rouge pour discuter d'accords de coopération militaire et aussi de gros contrat d'armement, le général Hlaing devrait plutôt être traité en paria, conclut Mark Farmaner, et le Conseil de sécurité de l'ONU transmettre son dossier à la Cour internationale de justice.
À Cuba, Eric, un peu plus de 2 ans après avoir rouvert son ambassade à la Havane, laquelle avait été fermée pendant 54 ans, le département d'État américain parle aujourd'hui de fermer cette ambassade.
De la refermer, oui, c'est Rex Tillerson, le patron de la diplomatie américaine, qui a évoqué cette possibilité hier dans l'émission de CBS Face the Nation. Le State Department, en effet, évalue actuellement la possibilité de refermer cette ambassade après une épidémie d'attaques visant les diplomates américains sur l'île. Des attaques particulièrement mystérieuses, perpétrées à l'aide d'ondes sonores dans les habitations personnelles des diplomates, voire dans certaines chambres d'hôtel occupées par eux. En tout, 21 diplomates américains depuis un an ont été ainsi directement visés, certains devant être rapatriés d'urgence et hospitalisés, souffrant de traumatismes moyens ou graves. Pour autant, personne ne semble en mesure de préciser la nature de ces attaques, ni leurs responsables. En mai dernier, rappel à Associated Press, 2 diplomates cubains ont été expulsés des États-Unis en protestation contre l'impuissance des autorités cubaines à assurer la sécurité des diplomates américains. Mais, souligne encore l'agence de presse, les États-Unis ont fait bien attention de ne pas accuser directement la Havane, signe que les enquêteurs estiment que même si certains Cubains ont pu être impliqués, l'ordre n'émanait pas forcément du sommet de l'État cubain. D'autant que les Américains n'ont pas été les seules victimes. Au moins 5 familles de diplomates canadiens ont été également visées, relève la chaîne canadienne CBC, qui remarque que le fait que des diplomates canadiens et américains aient été visés est assez évocateur, car les relations des deux pays avec Cuba sont totalement différentes, le Canada ayant toujours gardé de très bonnes relations avec Cuba. Or, un autre pays a souvent été cité relativement à ces attaques, la Russie, qui dispose d'une large présence à Cuba, qui entretient de très mauvaises relations avec à la fois les États-Unis et le Canada, et qui a une longue histoire de coups fourrés et autres harcèlements vis-à-vis des diplomates étrangers. Le fait que les attaques de la Havane semblent avoir utilisé des technologies inconnues et partant plutôt sophistiquées pointe également en direction d'une hypothèse russe, mais jusqu'à présent, on confiait plusieurs sources à CBC News, les enquêteurs ne sont toujours pas capables de désigner clairement un responsable.
Enfin, au Pakistan, la famille de Nawaz Sharif, le premier ministre déchu, a remporté une élection considérée comme cruciale ce week-end, Eric.
Il s'agissait d'une élection partielle dans la circonscription de Lahore, jusque-là détenue par Nawaz Sharif et désormais vacante depuis son éviction du pouvoir, une éviction intervenue en juillet dernier, la Cour suprême pakistanaise ayant démis le premier ministre de ses fonctions et de ses mandats suite à des allégations de corruption. Ce week-end, à Lahore, c'était la propre épouse de Nawaz Sharif qui concourait in absentia, elle-même se trouvant à Londres pour un traitement médical en compagnie de son ancien premier ministre de mari. C'est donc leur fille, Mariam, 43 ans, qui a conduit la campagne sur le terrain et qui, rapporte ce matin le site de la télévision pakistanaise JOTV, s'est fendue du communiqué de victoire remerciant les électeurs pour cette gifle infligée aux conspirateurs qui ont voulu se débarrasser de Nawaz Sharif. Alors certes, relève pour sa part le Wall Street Journal, c'est bien le parti de Nawaz Sharif qui a remporté cette élection partielle, dans une circonscription qui pourrait bien refléter ce qui se passera au niveau national lors des législatives de l'an prochain. Mais le parti d'opposition, dirigé par l'ancienne star du cricket Imran Khan, a amputé de moitié la marge de victoire de Nawaz. C'est exactement ce qu'il lui faudra l'an prochain pour être capable de remporter l'élection nationale. Et puis, relève aussi le Wall Street Journal, il faut regarder ce qui est arrivé en troisième position lors de cette élection partielle. Le candidat soutenu par la branche politique du Jamaat ud-Dawa, un groupe considéré comme responsable du massacre de Bombay en Inde en 2008, une attaque qui avait fait 166 victimes, un groupe labellisé comme terroriste par les Nations Unies.
Merci beaucoup Éric Biégala, on retrouve votre revue de presse internationale sur le site de France Culture, franceculture.fr.